Maintenant, pendant quelques minutes, je vous invite à prendre votre Bible et de l'ouvrir dans Romains chapitre 2. Romains chapitre 2. Nous continuons cette étude dans ce livre. Juste pour la petite histoire, aujourd'hui, c'est le dimanche de la fête des mères aux États-Unis. Et j'ai failli me faire avoir parce que j'ai pensé dans un premier temps c'était la fête des mères ici en France. mais ça, c'est la fête des mères ici en France, c'est le premier dimanche de juin. Mais aujourd'hui, la fête des mères aux États-Unis, donc j'ai failli préparer un message là-dessus. Et puis, je me suis rendu compte que c'était une erreur. Donc, nous continuons bien dans cette étude sur l'épître, la lettre aux Romains. Et au chapitre 2, les 16 premiers versets vont nous intéresser. Donc, à travers cette lettre, Paul est en train, bien sûr, d'expliquer l'Évangile, la bonne nouvelle. Paul est en train d'expliquer, au final, qu'est-ce que Dieu fait? Que fait donc Dieu? Quel est son plan? Quels sont ses projets? Paul l'explique ici dans cet épître. Du coup, aujourd'hui, les 16 premiers versets du chapitre 2, je vous dis tout de suite, il y aura des choses qui vont sembler surprenantes au début, et on va les adresser. Mais voilà, suivez avec moi. J'espère que vous avez votre Bible devant les yeux, version papier ou numérique. Donc, Romains chapitre 2, je vais lire les 16 premiers versets. Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Et penses-tu aux hommes qui jugent ceux qui commettent de telles choses et qui les fait que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu la richesse de sa bonté, de sa compassion, ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres. Il réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le juif premièrement, puis sur le grec. Gloire, honneur et paix sur quiconque fait le bien pour le juif premièrement, puis pour le grec. Car devant Dieu, il n'y a point de favoritisme. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Alors, ici, nous avons un passage qui peut paraître contradictoire par rapport au reste de la Bible. Vous l'avez peut-être relevé, on en parlera. Il est question de la vie éternelle. du salut, en quelque sorte. Et la grande question, bien sûr, est-ce par la foi, est-ce par les œuvres? Et du coup, Paul va un peu répondre à cela à travers ces différents versets. Mais finalement, qu'est-ce que Paul est en train de dire? Qu'est-ce qu'il voulait transmettre à ces chrétiens de Rome auxquels il écrit? Parce que, souvenons-nous, ne le perdons jamais de vue à travers ce livre, Paul est en train d'écrire directement à des gens sauvés. Et pourquoi est-ce qu'il le fait? Et pourquoi est-ce qu'il soulève cette question des inconvertis? Pourquoi est-ce qu'il soulève cette question d'œuvre? Il soulève cette question de jugement, même tout cela. Pourquoi est-ce qu'il le fait? On va un peu découvrir. Alors, on commence avec le verset 1. Et Paul, ici, commence à cibler des personnes qui se croiraient au-dessus ou exemptes de ce que lui, il avait dit à la fin de chapitre 1. Pour rappel, à la fin de chapitre 1, Paul avait montré que Dieu s'est révélé de façon directe, manifeste à l'humanité. Il le fait à travers la création, il le fait aussi, bien sûr, à travers sa parole. Les hommes, donc, sont inexcusables. Et pourtant, ils continuent de rejeter Dieu. Et Paul va suivre ce raisonnement au chapitre 2, parce que certains pourraient croire qu'ils ne sont pas aussi pires, aussi mauvais, ils ne sont pas allés aussi loin que ceux du chapitre 1. Ils auraient pu se réconforter un peu en disant « ça c'est eux, il est évident et normal que Dieu les livre à leur péché, que Dieu les livre au jugement, en quelque sorte, et toutes les conséquences de leur péché. Mais moi, je vis plutôt ma vie correctement. Je vis une vie, on va dire, normale. Je ne fais pas de mal volontairement à mon prochain. Je fais quelques petites rites ici et là. » Et quelqu'un pourrait se réconforter avec cette pensée et dire « le chapitre 1 ne s'applique pas à moi, du coup, c'est bon. » Et Paul dit, début du chapitre 2, « ah non. » Et non. Parce que nous savons, comme dit Paul, que quelqu'un qui va condamner le mal chez les autres, et le mal qui est condamnable, finalement, va faire les mêmes choses. Et on est inexcusable. Et donc, Paul dit, le jugement de Dieu est là. Et au verset 1, il est assez frappant. « Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable. » Et c'est exactement le même mot qui est utilisé au chapitre 1, au verset 20. « En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. » Donc, ces personnes-là qui ne veulent pas reconnaître Dieu alors qu'ils se révèlent sont inexcusables. Et Paul dit, chapitre 2, verset 1, « Eh bien, lorsque on condamne chez les autres quelque chose que nous faisons, nous sommes aussi inexcusables. » Alors, qu'ils soient bien compris, très clair avec ce passage. Ce passage ne parle pas de juger entre enfants de Dieu. Il y a d'autres passages qui traitent de cela, mais ce passage ne doit pas être utilisé pour dire un autre enfant de Dieu n'a pas le droit de me juger. Et que ceci soit bien compris. Les autres enfants de Dieu ont le droit de condamner le péché qui est dans ma vie. Il y a d'autres passages qui en parlent. Ce passage ne parle pas de la condamnation du péché d'un enfant de Dieu dans la vie d'un autre enfant de Dieu. D'accord? Ici, nous sommes en train de parler finalement des inconvertis. Et pourtant, rappelons-nous, Paul, il écrit à des gens sauvés. Mais pourquoi? Finalement, parce que Paul veut aider ces gens sauvés, déjà à reconnaître et compatir avec la condition des inconvertis, il veut aussi leur montrer qui est Dieu. Et finalement, il veut leur montrer ce que eux, en tant qu'enfants de Dieu, ils doivent faire. Et si nous revenons au verset 2, chapitre 2, verset 2, après avoir parlé que les inconvertis qui condamnent chez les autres de mauvaises pratiques, tout en les pratiquant eux-mêmes, ces gens-là sont inexcusables. Verset 2, « Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. » Et nous voyons, à la fin de verset 5, lorsque Paul il parle pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. Il faut que ce soit bien compris, bien clair, et que nous l'annoncions autour de nous, parce que la Bible le dit. Dieu est totalement juste lorsqu'il juge, lorsqu'il condamne et lorsqu'il le punit. Malheureusement, les inconvertis disent « Dieu est injuste ». Dieu est un Dieu en colère. Dieu ne laisse pas la possibilité aux gens de se repentir. Dieu ne donne pas une chance à l'humanité. Alors que si. Paul dit, verset 2, le jugement de Dieu est selon la vérité. Ce que ces personnes, ces inconvertis, ont fait en termes de péché est une réalité. Dieu n'invente rien. Dieu ne porte pas de faux témoignages, bien sûr. Dieu ne ment pas, mais non. Il est le Dieu de vérité. Et donc, lorsqu'il annonce la vérité, lorsqu'il annonce le jugement, c'est sur une bonne base. Et lorsqu'il juge, son jugement est toujours juste. Et ça, c'est le message que nous devons annoncer en tant qu'enfants de Dieu. Lorsque nous annonçons la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, bien sûr, il doit avoir cet élément où les inconvertis sont déjà sous le juste jugement de Dieu. Et au verset 3, Paul nous assure que Dieu ne rate rien. Rien n'échappe à Dieu. Verset 3, « Penses-tu aux hommes qui jugent ceux qui commettent de telles choses et qui les fait ?» Et entre parenthèses, par extension, « Tu es coupable, digne de jugement, que tu échapperas au jugement de Dieu. » Malheureusement, c'est la façon de penser de beaucoup des gens qui nous entourent, des inconvertis, ils se disent « Dieu ne voit pas, Dieu ne prête pas attention, Dieu ne s'occupe pas de mon péché, il a d'autres soucis dont il doit s'occuper, alors moi, il m'oublie un peu Et du coup, c'est pas grave. Et Paul dit, est-ce que tu penses échapper au jugement de Dieu? La réponse est non. Mais non, on ne peut pas échapper au jugement de Dieu. Et si nous sommes enfants de Dieu aujourd'hui, nous devons annoncer ce message. Personne n'échappera. Lorsque nous serons emmenés en jugement devant Dieu, chacun sera là. Personne ne pourra dire « Ah, je suis exempt ». Non, on ne pourra pas échapper. Et puis, verset 4, un verset vraiment extraordinaire, parce que les gens, les inconvertis qui accusent et qui condamnent ceux qui font le mal tout en le faisant eux-mêmes, alors de deux choses l'une, soit ils pensent échapper au jugement de Dieu, ou bien, comme Paul dit, verset 4, ils méprisent les richesses de la bonté de Dieu, sa patience, sa longanimité. Alors, patience à l'extrême, quelque chose dont seul Dieu est capable. Dieu a été patient avec l'humanité pendant littéralement des milliers d'années. C'est incroyable. Et Dieu continue d'être patient avec l'humanité. Et sa bonté, en nous envoyant Jésus-Christ, en nous gardant en vie, en nous donnant l'occasion d'entendre le salut en Jésus-Christ, sa bonté, sa patience, sa longanimité, tout cela nous pousse à la repentance, ou plutôt devrait nous pousser à la repentance. Mais qu'est-ce que nous constatons? C'est la même chose que Paul, il constate au verset 5. Malheureusement, le contraire, au lieu de nous pousser ou de pousser des inconvertis vers Dieu, par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. Dieu, lorsqu'il jugera, sera juste en effet parce qu'il aura donné l'occasion. Il nous aura donné à tous l'occasion de venir vers lui. Et ma gloire à Dieu, il y en a qui viennent, qui acceptent le salut en Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Mais tous ceux qui ne l'auront pas reçu ne peuvent pas dire « Ah Dieu, tu ne m'as pas donné l'occasion. Dieu, j'aurais tellement voulu te choisir, mais je n'ai pas pu. » Non. Dieu a donné l'occasion, mais malheureusement, le cœur de l'homme est endurci. Son cœur est non repentant. Et ainsi, on emmagasine, on met dans des réserves la colère pour le jour de la colère. Et ici, Paul, il rejoint Jean, lorsque dans Jean chapitre 3, verset 36, Jean va dire « Celui qui ne croit pas au Fils, la colère de Dieu demeure sur lui, est déjà là. » Et ça, c'est la réalité de la condition des inconvertis. Et bien sûr, verset 6, « Dieu qui rendra à chacun selon ses œuvres. » Et là, on se dit, oula, ça commence à nous perturber, à nous mettre peut-être mal à l'aise. Juger selon les œuvres. Oui, mais si on compare avec Apocalypse chapitre 20, c'est tout à fait ce que nous voyons. Vous pouvez marquer ce passage, Apocalypse chapitre 20. Dans ce passage, après le millénium, après la dernière bataille, le dernier combat, tous se retrouvent devant Dieu. C'est le jugement du grand trône blanc. Et là, les morts sont jugés d'après les livres qui sont ouverts. Parce qu'il n'y a pas d'autre base. Donc, les inconvertis sont jugés sur la base de leurs œuvres parce qu'ils n'ont pas été, ils n'ont pas accepté Christ comme leur sauveur. Qui rendra à chacun selon ses œuvres. Et ça, nous comprenons. Les inconvertis qui n'acceptent pas Christ, ils n'ont pas d'autre base. Il n'y a rien d'autre que Dieu peut utiliser qui soit juste pour les juger. Et ainsi, tous les inconvertis iront dans le lac de feu où ils subiront des tourments éternels à cause de leur désobéissance envers Dieu. Mais c'est le verset 7 qui pourrait poser problème pour nous. Vous l'avez sûrement relevé, cela vous a peut-être intrigué alors que je l'ai lu. Dieu réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Quoi? Non mais Robert, je croyais que le salut c'était par grâce, par le moyen de la foi. Éphésiens chapitre 2, versets 7, 8, 9 et 10. Qu'est-ce que Paul dit ici? Et la lettre aux Romains, n'est-ce pas le livre qui parle du salut par la foi, qui parle de la grâce? Ça ne vient pas de vous, c'est le don gratuit de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est le salut en Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que Paul dit ici en disant « Dieu réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité ». Est-ce que Paul est en train de dire que nous sommes sauvés par nos œuvres? Et je veux que ceci soit très clair. Non, Paul ne dit pas ici que nous sommes sauvés par nos œuvres. J'espère que chacun est convaincu de cela, chacun le comprend. Et pourtant, ce que Paul est en train d'expliquer ici, c'est finalement ce que Jacques, lui, il va expliquer dans son épître. Dieu réserve le salut à ceux qui sont réellement sauvés. Mais comment savoir si quelqu'un est sauvé? Parce que j'ai écrit sur un bout de papier un jour je suis sauvé? Mais non, non. Parce qu'un jour j'ai prié une prière? Non, pas vraiment. Comment savoir? Eh bien, c'est dans la pratique de tous les jours. Et ici, ceux qui persévèrent à bien faire, qui cherchent l'honneur, la gloire, l'immortalité, montrent par cela qu'ils sont réellement sauvés. Ce n'est pas la recherche de ces choses qui les sauve, mais ça montre bien qu'ils sont réellement sauvés. C'est une subtilité, mais c'est une différence importante, une distinction qu'il faut garder. Et du coup, aujourd'hui, si je devais vous poser la question « Êtes-vous sauvé ?», il y a deux réponses, oui ou non. Et si on n'est pas certain, ben, ça veut dire que c'est non. Oui ou non? Est-ce que vous êtes sauvé? Et si vous dites oui, comment le savoir? Bien sûr, il faut à un moment donné accepter Christ comme son sauveur personnel. C'est de la bouche qu'on confesse, on croit dans son cœur et on confesse de sa bouche. Ça, on va voir dans la suite de ce livre. Mais les autres ne voient pas dans notre cœur. Et nous pouvons dire les bonnes choses, les choses auxquelles les autres s'attendent et même des choses auxquelles Dieu s'attend, sans pour autant qu'il y ait un réel changement de cœur. Et donc, comment montrer qu'on est sauvé? Eh bien, Paul dit, ceux qui persévèrent à bien faire. Non pas qu'on essaie de vivre sa vie assez bien pour obtenir le salut. On ne pourrait pas, c'est impossible. Mais parce que nous sommes sauvés, nous faisons le bien. Et le bien, c'est quoi? C'est assez vague. Et c'est vaste, ça. Alors, le bien, c'est finalement ce qui est conforme à la Bible. C'est ce qui est conforme à Dieu. Et donc, ça veut dire dans mes relations à la maison, mari et femme, ben, si je suis sauvé, je cherche le bien, le bien-être, mais aussi le bien spirituel de mon conjoint. Les parents, eh ben, je cherche le bien de mes enfants. Les enfants, j'obéis aux parents. Pour les familles, on montre qu'on suit les principes de la Bible. Lorsque nous nous rassemblons à l'église, ce n'est pas parce qu'on n'a rien d'autre à faire. Ce n'est pas parce que c'est la tradition et on fait toujours comme ça. Non, c'est parce que Dieu veut que ses enfants se rassemblent. Et lorsque nous sommes ensemble, ben, on manifeste l'amour. On fait le bien les uns envers les autres. Et puis, au travail, certains vont reprendre le travail demain ou vont reprendre le travail dans la semaine. Ben, là, malgré le mal qui est dans le monde, malgré le péché, malgré la frustration, l'impatience, malgré les mauvais choix des autres, moi, en tant qu'enfant de Dieu, si je le suis, je dois m'appliquer à faire le bien. Dans toutes mes relations, partout où je suis, la persévérance à bien faire, parce que on voit tellement de mauvais exemples autour de nous, n'est-ce pas? Il y a tout ce qui va mal. Et du coup, la vie éternelle est réservée à ceux qui, non pas que ces choses lui donnent la vie éternelle, mais ça prouve que cette personne a la vie éternelle, bah, on persévère à bien faire, on cherche l'honneur, on cherche les choses qui sont élevées. On cherche la gloire, non pas notre propre gloire, mais la gloire de Dieu. Et puis, l'immortalité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, chercher l'immortalité? Ben, finalement, si on peut le résumer dans quelques mots, ça veut dire que ma perspective n'est pas simplement terrestre, que je me souviens toujours qu'il y a quelque chose après la mort, que la mort n'est pas la fin de toute chose, c'est finalement le passage vers l'avenir. C'est une étape dans cette existence que Dieu nous donne. Et Dieu nous donne un certain temps sur la terre et il faut bien l'utiliser pour la gloire de Dieu, en faisant le bien autour de nous. Mais on cherche aussi ce qui est après. Et voilà pourquoi dans cette période de confinement, cette période d'instabilité, d'incertitude, cette période de peur par rapport au coronavirus, parce que les gens, ce qu'ils craignent, c'est de tomber malade. Ce qu'ils craignent, c'est de mourir, comme si c'était la pire chose qui pouvait arriver. Non, la mort n'est pas la pire chose qui peut arriver, du moins la mort physique. La pire chose qui peut arriver, c'est la séparation, la mort éternelle, la séparation avec Dieu. Et il est possible, et peut-être nous sommes tous coupables, d'avoir une vision trop terrestre en tant qu'enfant de Dieu. Nous oublions qu'il y a autre chose. Et nous ne vivons pas notre vie aujourd'hui sur la terre dans la perspective qu'un jour nous passerons l'éternité auprès de Dieu. Et je suis convaincu que nous aurions un plus grand impact dans notre monde aujourd'hui si chacun de nous, si nous sommes enfants de Dieu, cherchions, comme dit Paul aux Philippiens, les choses d'en haut. Si nous cherchions cette immortalité, que nous vivions en conséquence, ça enlèverait la peur, ça enlèverait l'attachement aux choses de la terre, il y a ce chant « Tourne les yeux vers Jésus ». Et une strophe qui termine « Et les choses de la terre pâliront peu à peu, lorsqu'on tourne vers Jésus les yeux. » Et Paul dit « Dieu, il réserve la vie éternelle. » On sait que les gens sont réellement sauvés, bien sûr lorsqu'ils persévèrent à faire le bien, lorsqu'ils cherchent l'honneur, les choses élevées, lorsqu'ils cherchent la gloire, bien sûr la gloire de Dieu, et aussi l'immortalité, la vie après cette vie sur la terre. Et en lisant cette description, est-ce que ça vous décrit? Est-ce que quelqu'un peut prendre ce verset et dire « Ah oui, ça correspond à cette personne et je sais que cette personne est sauvée. » Non pas parce que la personne va à l'église tous les dimanches, non pas parce que la personne se dit sauvée. Et comprenons bien, ce sont de bonnes choses. Déclarer qu'on est sauvé, aller à l'église, prier même, ce sont de bonnes choses. Mais ce n'est pas tout. C'est dans la vie de tous les jours. Alors, autant Paul va parler dans le verset 7 des enfants de Dieu, les versets 8 et 9, il va parler des inconvertis. Et il nous faut rappeler la condition des inconvertis. Non pas pour les écraser, non pas pour les humilier, non pas pour les éloigner, mais que nous ayons pitié d'eux. Alors regardez verset 8. « Mais Dieu réserve l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. » Dieu réserve irritation, donc il est activement contre. Et puis la colère, cette colère divine juste de la part de Dieu sur ceux qui sont inconvertis. Et puis, verset 9, Paul appelle ce jugement « tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal », sur le juif premièrement, puis sur le grec. Alors, ça doit nous rappeler verset 16 de chapitre 1, le salut. C'est premièrement pour le juif, mais aussi pour le grec. Ici, cette irritation, cette colère, ce jugement de Dieu, il n'y a pas de distinction. Peu importe notre statut social, notre arrière-plan culturel, notre arrière-plan académique, les études qu'on aurait pu faire, toutes les choses que nous aurions pu apprendre dans la vie, peu importe, si nous ne sommes pas en règle avec Dieu, si nous persévérons dans l'injustice et par cela nous montrons que nous ne sommes pas sauvés, notre position devant Dieu est une position où il déverse sa colère sur ces personnes. Alors bien sûr, sa colère n'est pas sur ses enfants. Donc les enfants de Dieu sont en sécurité, mais doivent le manifester. Donc, tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le juif premièrement, puis sur le grec. Et puis verset 10, Paul revient aux gens sauvés, gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour le juif premièrement, puis pour le grec. Devant Dieu, pour le salut, qu'on soit juif, qu'on soit non-juif, peu importe, tous bénéficient du salut, tous peuvent faire le bien, tous peuvent manifester qu'ils sont sauvés. Et puis, pour nous permettre un peu de comprendre ce que Paul est en train de dire, parce que les gens de son époque, apparemment, n'auraient pas trop compris, et peut-être nous aussi, nous n'aurions pas trop compris non plus. À partir du verset 12, et puis verset 12 jusqu'au verset 15, tous ceux qui ont péché sans la loi, périront aussi sans la loi. Alors, sans la loi, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, finalement, c'est ceux qui n'auraient pas reçu cette révélation directe de Dieu. Ils ont la révélation indirecte de la création que Paul a évoquée au chapitre 1, mais n'auraient pas cette révélation directe de Dieu. Et ils vont quand même périr. Et ici, nous avons un verset qui nous permet de voir un peu comment Dieu va traiter avec ceux qui, à notre connaissance, n'auraient jamais entendu parler ni de la Bible, ni du salut en Jésus-Christ. Alors, ça, c'est toute une autre étude et toute une autre discussion. Mais ici, nous voyons que Dieu, étant juste, doit juger le péché. Et même ceux qui n'auraient pas reçu directement la Bible et qui n'auraient jamais lu ou entendu même parler de Jésus-Christ, parler de la loi de Dieu, eh ben, ils vont quand même périr. Il y a un jugement. Ce jugement sera sûrement moins sévère que ceux qui auront entendu, mais il y aura un jugement. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Et du coup, leur condamnation sera plus sévère parce qu'ils ont de la connaissance. La loi leur a été révélée. Et puis, verset 13, très important pour nous. « Ce ne sont pas, en effet, ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu. » D'où le grand problème de personnes, comme dit Jacques, qui lisent dans la Bible, qui entendent la Bible, qui se rendent compte que quelque chose ne va pas, mais qui repartent et aussitôt retournent à leurs vieilles habitudes, qui ne laissent pas la parole de Dieu les changer, aucune transformation. Cette personne-là est probablement pas sauvée. Parce que ici, la simple écoute de la loi, de ce que Dieu dit, n'est pas suffisant. Écouter est nécessaire. C'est la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La parole de Christ, plus exactement. Mais ce n'est pas suffisant. Ceux qui écoutent la loi, ce ne sont pas ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu. Alors, qui est juste devant Dieu? Ce sont ceux qui la mettent en pratique, qui seront justifiés. Alors, encore une fois, ceci ne veut pas dire que notre salut, notre justification dépend de nos œuvres. Que si je mets en pratique ce que je lis dans la Bible, je suis justifié, je suis sauvé. Si je ne le fais pas, je ne suis pas sauvé. Non. Par contre, si je suis sauvé, j'aurai le désir de mettre en pratique. Et au-delà du désir, je vais le faire. Et ce qui plaît à Dieu et ce qui a plu à Dieu depuis toujours, ce n'est pas simplement l'écoute. L'intégration, même l'acceptation de sa parole. Non, c'est la mise en pratique. C'est lorsque on le fait, lorsqu'on agit. Et Jésus lui-même, dans les évangiles, il a dit, pourquoi est-ce que vous m'appelez maître et vous ne faites pas ce que je dis? Il va dire, vous êtes réellement mes disciples lorsque vous faites ce que je vous dis. Donc, la mise en pratique est quelque chose qui doit intégrer notre vie tous les jours. Et encore une fois, on se pose la question, avec tout le temps que je passe à lire la Bible, à m'instruire, à écouter des prédications, à lire de bons livres chrétiens, à essayer de grandir dans ma vie avec Dieu, avec tout le temps que je passe à recevoir, à écouter, à lire et tout, est-ce que ça change ma vie? Est-ce que je suis différent? Est-ce que je mets en pratique plus aujourd'hui que hier? À la sortie de ce confinement, est-ce que je vais agir différemment qu'au début? Nous sommes presque à la mi-mai. Presque là, on arrive bientôt à la moitié de l'année. Cette année 2020, est-ce que j'ai plus mis en pratique la parole de Dieu, de ce que je sais, que 2019? Parce que c'est par cela que je vais montrer, et ce sera manifeste, que je suis enfant de Dieu. Alors, au verset 14 et 15, Paul veut nous rassurer avec quelque chose. Alors, regardez ceci. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. Paul montre par ceci que Dieu, puisqu'il est totalement juste, lorsqu'il crée l'homme, lui donne un sens, une capacité de déterminer le bien et le mal. Même sans lire la Bible, même une civilisation, un groupe de personnes qui n'auraient jamais connu quoi que ce soit sur la Bible ou sur Dieu, le vrai Dieu, il y a cette notion du bien et du mal. Et d'où ça vient? Ça vient de Dieu parce que nous sommes ses créatures. Et il donne à chacun, même des inconvertis, cette notion du bien et du mal. Et ainsi, quand ils font le mal, leur conscience, cette petite voix à l'intérieur d'eux, les accuse, dit « Ah, ça, c'est pas bien ». Et quand ils font le bien, ils en sont contents. Ils disent « Ah, là, j'ai fait le bien ». Mais ce n'est pas pour autant qu'ils sont sauvés. Parce que nous aussi, nous avons cette conscience. Le Saint-Esprit aussi est en nous et nous montre et nous, dans un sens, nous reprend lorsque nous agissons mal, nous confirme lorsque nous faisons le bien. Alors, qu'est-ce qui change entre nous? Qu'est-ce qui nous distingue si nous avons la même conscience avec des inconvertis? Ce qui nous distingue, c'est que nous avons la capacité de faire le bien, toujours, en nous appuyant sur Dieu. Et du coup, les inconvertis n'ont pas cette capacité. Parfois, ils vont faire de bonnes choses, de bonnes actions. Il y a eu de braves gens à travers l'histoire qui, malgré leur état d'inconvertis, ont fait de bonnes choses et ont aidé et ont fait des choses vraiment extraordinaires. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils sont sauvés. C'est seulement les enfants de Dieu qui arrivent réellement, par l'aide de Dieu, à obéir à Dieu. Et en arrivant au verset 16, Paul va dire, c'est ce qui paraîtra, donc ce sera manifeste, tout le monde pourra le voir, au jour où, selon mon évangile, selon la bonne nouvelle que Paul annonçait, qu'il annonçait à travers cette lettre aux Romains, qu'il avait annoncé partout où il est allé, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Et cela est quelque chose qui va arriver. C'est une réalité. Ce n'est pas simplement une possibilité. Ah, peut-être bien que oui, mais bon, il se peut que non. Non, c'est une certitude. Dieu, par Jésus-Christ, parce qu'il a remis tout jugement entre les mains du Fils, Dieu, par Jésus-Christ, jugera. Et ainsi, pour les inconvertis, ça doit les pousser à la repentance. Ça doit les pousser à accepter Christ comme leur sauveur pour qu'ils échappent au jugement final. Et ça doit être notre message. C'est ça la bonne nouvelle. C'est qu'en Jésus-Christ, nous pouvons échapper à ce jugement final. Et nous devons être zélés, fidèle, ferme, mais compatissant dans notre annonce du salut en Jésus-Christ. Les inconvertis doivent accepter Christ. Mais également, pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, Dieu nous voit. Si nous sommes son enfant, il n'est pas indifférent par rapport à nos actions, nos pensées, nos paroles. Et un jour, nous répondrons devant Dieu, nous serons devant Dieu. Là, c'est ce que Paul il va appeler, quand il écrit aux Corinthiens, le tribunal de Christ. Et là, nos œuvres seront examinées, non pas en vue du jugement, parce que nous sommes gardés par Jésus-Christ. Si nous sommes sauvés, aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, mais nos œuvres seront examinées, jugées par le feu. Et il est possible que beaucoup de nos œuvres vont partir en fumée. Ça va être du bois, du foin, ça va partir en fumée. Et qu'est-ce qui restera ? Ben, ce qui n'est pas détruit par le feu. Et Paul dit ici, ben, un jour arrivera, on ne sait pas quand, ça peut être demain, ça peut être même aujourd'hui, ça peut être dans 5, 10, 100 ans, si Dieu le veut. Mais ce qui est certain, c'est qu'un jour, les œuvres secrètes, les actions secrètes des hommes, de tous, seront examinées et manifestes. Et du coup, nous devons aujourd'hui agir en tant qu'enfants de Dieu. Nous devons faire de bons choix aujourd'hui. Nous devons examiner notre vie aujourd'hui. En ce moment, vous écoutez la parole de Dieu et ça, c'est super. Mais après cette prédication, cet après-midi, demain, quand on va reprendre le travail pour certains, pour les enfants quand ils vont reprendre l'école, pour chacun de nous quand on recommencera à prendre nos habitudes d'avant, notre vie, une fois que le déconfinement sera totalement engagé, comment serons-nous? Est-ce que nous allons refléter la réalité d'enfants de Dieu que nous sommes? Ou est-ce que nous faisons de l'apparence? Nous essayons de bien faire parce qu'on sait c'est ce à quoi on s'attend, parce qu'on a toujours fait comme ça et on va mal me regarder si je ne le fais pas. Non. J'agis bien, hein? Je persévère à bien faire, je garde la perspective vers l'avenir parce que je suis sauvé. Et j'annonce le salut autour de moi parce qu'un jour, le jugement arrive et les gens aujourd'hui doivent venir vers Christ pour le salut. Et Paul voulait aider ses frères et sœurs à Rome. Et Dieu, aujourd'hui, veut aider ses enfants là où nous sommes, chez nous, confinés encore. Dieu veut nous aider à avoir la bonne perspective. À travers ces versets, nous voyons le salut passe par Jésus-Christ. Ce n'est pas par les œuvres, comprenons bien, mais parce que nous sommes sauvés, annonçons le salut en Jésus-Christ autour de nous. Parce que nous sommes sauvés, ayons de la compassion envers les inconvertis. Parce que nous sommes sauvés, agissons en conséquence. Parce que nous sommes sauvés, glorifions Dieu avec notre vie aujourd'hui. Et cela est possible grâce à Jésus-Christ. Et toujours, comme chaque dimanche, et j'espère que vous le faites tous les jours, nous devons demander l'aide de Dieu pour ces choses. Ce n'est pas facile, c'est même impossible par nous-mêmes. Mais Dieu, par sa toute-puissance, peut nous aider et il faut demander son aide. Et c'est ce que nous allons faire. Je vais prier, demander l'aide de Dieu pour nous. Chacun peut prier chez lui pendant ce moment. Donc, demandons à Dieu l'aide dans la prière pour ces choses. Oui, Seigneur, nous sommes devant toi. Nous te remercions pour ta parole et pour le fait que par Jésus-Christ, nous avons la possibilité d'être sauvés et nous avons même la possibilité de vivre aujourd'hui au milieu de ce monde entaché par le péché. Nous avons la possibilité de vivre pour toi. Nous sommes insuffisants, Seigneur, nous sommes faibles par moments. Nous avons besoin de ton aide et c'est ce que nous demandons avec foi, en sachant que tu le feras, Seigneur. Nous nous en remettons à toi. Toi, tu ne failliras jamais. Que tu nous aides en ce moment, mais aussi à travers le reste de cette journée, aussi à travers cette semaine qui est devant nous. Seigneur, que tu puisses nous diriger, nous garder. Nous savons que tu le feras, Seigneur, et nous te remercions d'avance pour toute l'aide que tu nous apporteras au jour le jour. En ton nom. Amen.